Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour, dans cette petite chronique du grand monde du travail, la chronique du temps moderne, nous allons aujourd'hui réaborder la question des retraites. Et on va le faire sous forme d'interview. Et on a la chance d'avoir donc au bout du fil Yannick Petitou, qui est le responsable départemental des sections retraitées sur le département, donc du Tarn-et-Garonne, et qui maîtrise particulièrement ce sujet. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Alors, une première question, quelles sont les raisons des problèmes des retraites aujourd'hui ?
Alors, les retraites, bon, ne présentent pas de grandes difficultés financières, puisque le retour à l'équilibre était prévu très rapidement. Seulement, voilà, des mesures qui ont été prises par le président Macron et son gouvernement mettent en difficulté aujourd'hui notre système de retraite. Ces mesures, ben, ce sont les allègements de cotisations qui sont à nouveau pour le patronat. Et c'est par exemple aussi le blocage des salaires dans la fonction publique. Si les salaires de la fonction publique avaient augmenté du niveau de l'inflation, eh bien, on aurait aujourd'hui notre système de retraite qui serait donc à l'équilibre.
Donc,
ça, c'est la courte échéance. Après, à long terme, il est vrai que notre système de retraite présentait quelques difficultés, à savoir notamment un décrochage du niveau de vie des retraités par rapport au niveau de vie des actifs.
Alors, on nous parle de difficultés à venir du fait de la démographie. Est-ce que c'est vrai ?
Alors, nous n'avons pas une si mauvaise démographie que ça en France, en comparaison, par exemple, avec l'Allemagne. Par contre, cet argument oublie un élément essentiel, c'est que aujourd'hui, les travailleurs produisent beaucoup plus de richesses que ce qu'ils produisaient avant. Et donc, on a une amélioration de la productivité. Alors, je vais citer quelques exemples pour qu'ils parlent un peu. Puisqu'on est dans un département agricole, la productivité du travail agricole a augmenté de façon phénoménale. En 1955, il y avait 6,3 millions d'agriculteurs qui nourrissaient 42 millions d'habitants. Maintenant, on a seulement 500 000 agriculteurs, au lieu de 6,3 millions, qui nourrissent bien plus d'habitants, soit 65 millions d'habitants. Et en plus, ils exportent 8% de leur production. Donc, vous voyez, sur cette période-là, on a produit beaucoup plus de richesses. Maintenant, c'est de quelle manière ces richesses vont être reparties. Un autre exemple sur la productivité du travail salarié, par exemple, si on prend l'aéronautique, en 1970, un ouvrier pouvait produire 40 pièces d'aéronautique par jour. Aujourd'hui, il en produit 105 par jour de ces mêmes pièces. Donc là aussi, vous voyez, c'est dans la mesure où notre travail est beaucoup plus productif, on pourrait travailler beaucoup moins de temps. Donc c'est ce gain de productivité, soit il est tourné à l'avantage des salariés, soit il est tourné à l'avantage de ceux qui les exploitent et donc principalement le grand patronat.
Oui, en résumé, c'est pas tant les questions démographiques, d'ailleurs qu'on ignore pour l'avenir, qui plus est, que finalement la question de la répartition des richesses. Alors aujourd'hui, on nous invente un nouveau système, enfin qu'on a déjà connu dans d'autres pays, hein, qui s'appelle la retraite à points, et on nous dit que ce système de retraite à points serait un système égalitaire. Alors, est-ce que c'est vrai ?
Alors, oui, il serait tout à fait égalitaire, mais une égalité vers le bas. Nous serions tous maltraités. Aujourd'hui, il y a des différences, quelques différences très faibles de traitement entre les différentes catégories. C'est plutôt des différences qui sont montés en épingle que des différences réelles. Mais voilà, ce que prévoit le système suite au rapport de Lebois, c'est un nivellement par le bas des pensions de retraite.
Alors moi j'avais une question là-dessus, parce qu'un système égalitaire, ça suppose qu'on puisse comparer avec son collègue, avec sa famille, ses voisins. Est-ce que ce système-là oui. permet de comparer?
Alors, ce qui va être difficile, c'est de savoir, quand on travaille, combien on va toucher ensuite à la retraite. Ça va être très compliqué. Alors qu'aujourd'hui, on a un système où les prestations sont connues, elles sont définies, et on sait ce qu'on va toucher à la retraite. Ce qu'on sait aussi, c'est que le futur système de retraite sera bien moins avantageux que ne l'est celui d'aujourd'hui. Donc forcément, il va arriver un moment où on va trouver toutes sortes de retraités, les retraités anciens régimes et les retraités nouveaux régimes. Alors dans ce pays, malheureusement, on raisonne plus comme on raisonnait il y a quelque temps. C'est que quand quelqu'un est mieux loti que l'autre, eh bien, tout le monde se rue sur lui parce qu'on considère que c'est un privilégié. Tandis que il y a plusieurs années de ça, dès qu'une entreprise avait des avantages, eh bien, c'était un moteur pour que les autres entreprises aient ce même avantage. C'est ainsi que par exemple, la Régie Renault. C'était le poisson pilote des avancées sociales dans notre pays, comme la fonction publique l'a été aussi, voilà, où c'était des droits supplémentaires que les autres cherchaient à acquérir plutôt que d'envier.
La question sur le système à points, c'est que ce que j'avais compris moi, c'est que en fin de compte, étant donné que les points sont négociés année par année et qu'on ne les connaît pas, on connaît pas leurs chiffres à l'avance, et que les carrières sont pas exactement comparables, y compris avec son propre collègue de travail, donc c'est un système incomparable. Donc on nous parle d'égalité, mais en même temps une égalité qui est absolument pas vérifiable. Donc on est dans l'inconnu absolu de ce point de vue-là.
Tout à fait. Tous les ans, il y aura une commission qui va se réunir. Bon, elle est en cours de négociation, hein, la composition de cette commission. Elle va se réunir tous les ans pour fixer la valeur du point qui sera servi. Alors, elle sera fixée en fonction de plusieurs choses. Premier élément, l'équilibre du système de retraite. Il faudra que cette valeur permette l'équilibre financier du système de retraite. Et donc, elle sera calculée en fonction de l'espérance de vie des gens qui vont partir à la retraite, du produit intérieur brut, voilà, et de ces paramètres qui vont permettre l'équilibre. Donc, d'une année sur l'autre, les gens pourront très bien ne pas avoir la même retraite. S'il faut, on partira une bonne année. Une autre année, ça sera une mauvaise année pour partir à la retraite. Donc, c'est dans ce niveau-là, en effet, que ça ne sera pas comparable.
D'accord. Donc, on ne le connaît pas en résumé à l'avance. Alors, la deuxième grande question, c'est évidemment l'âge de départ. Qu'en est-il de l'âge de départ?
Alors, l'âge de départ, c'est la grande escroquerie. Certains syndicats ont dit surtout ne touchez pas à l'âge de départ. Bon, tous les syndicats l'ont dit. Mais certains sont prêts à négocier une baisse du montant de la pension si on maintient cet âge de départ. Et d'ailleurs, c'est ce que prévoit le rapport de Lebois, puisqu'il a prévu une décote, c'est-à-dire une diminution de la pension si on part à 62 ou 63 ans. La pension telle qu'elle est prévue à 64 et une augmentation de la pension si on est au-delà de 64 ans. Donc c'est quand même alors 5% de décote pour ces deux années précédant les 62 ans ou l'âge légal de départ. 5% c'est énorme puisque aujourd'hui un an de travail vous procure aux alentours de 1,8% de votre salaire. Là, vous allez donc avoir l'équivalent de 2 à 3 ans de salaire d'équivalent d'année de cotisation en moins si vous partez un an avant.
Donc
la sanction est considérable. Donc beaucoup de gens, évidemment, ne vont pas partir à la retraite à 62 ans, parce que sinon, ils auront vraiment des retraites de misère. Déjà qu'à 64 ans, ce seront des retraites aussi de misère. On a fait plusieurs calculs qui le démontrent. Mais là, ça va être très difficile.
Alors, si je comprends bien...
À l'âge légal, beaucoup de gens vont retarder leur départ au détriment de leur santé, au détriment aussi de leurs revenus, parce qu'il faut savoir que un retraité sur deux part à la retraite alors qu'il n'est pas en activité, c'est-à-dire soit il est en maladie, soit il est au chômage, donc il va falloir poursuivre cette période-là, par les RSA par exemple, donc ça va être catastrophique au niveau des revenus.
Donc en résumé, donc un âge de départ théorique, mais qui ne correspondra plus à la réalité du fait qu'il y aura une incitation forte, compte tenu de la faiblesse des revenus, de poursuivre au-delà de cet âge théorique. En résumé, c'est ça ?
C'est ça, en résumé, oui.
D'accord. Alors derrière tout ça, qu'est-ce qui se cache ? Quel est le vrai mobile pour créer ce nouveau système ? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Parce que ce qu'on entend, par exemple, c'est, on le voit dans toutes les entreprises, c'est que les patrons veulent pas qu'il y ait des vieux qui restent au boulot. Si je prends l'exemple du BTP, on sait que la moitié des salariés du BTP sont sortis finalement du travail avant 55 ans. La moitié a disparu de la boîte. Des boîtes, ils sont au chômage, ils sont en invalidité, etc. Alors, le vrai mobile, c'est quoi ?
Alors, c'est vrai. Hein, promenons-nous sur les chantiers. On voit très bien qu'il y a très peu de personnes au-delà de 55 ans, si ce n'est peut-être celui qui manipule la grue avec l'appareil électrique. Là, voilà, mais c'est en effet, le patronat ne veut plus de salariés âgés, donc on va mettre ça dans la difficulté financière. Le vrai mobile, dont l'abus, c'est de créer l'incertitude. Donc quand on va avoir, si on ne sait pas combien on va toucher à la retraite, il y a deux solutions face à l'incertitude. Soit on se dit on a les moyens et on va prendre une retraite complémentaire. On va s'adresser à sa banque, on va s'adresser à sa compagnie d'assurance et on va souscrire un plan d'épargne retraite. D'ailleurs, la loi Pacte qui a été votée il y a quelques mois prévoit des tas de facilités supplémentaires donc pour réaliser ces plans d'épargne retraite qui peuvent être contractés aussi au sein de l'entreprise. Donc pour ceux qui auront les moyens, ils vont constituer une épargne par capitalisation. Ce qui n'est pas sans risque d'ailleurs, parce qu'on a vu avec l'effondrement boursier de 2008 que dans certains pays, des retraités se sont retrouvés sur la paille ou en très grande difficulté. Et puis, pour celui qui n'aura pas les moyens de souscrire un plan par capitalisation, il faut qu'il s'attende à la misère.
D'accord.
Voilà. Donc il sera miséreux pendant sa vie professionnelle, pour devenir ensuite un retraité encore plus miséreux.
Alors c'était un peu en fait ma question suivante, là tu as commencé à y répondre. Avantages et inconvénients avec le système actuel et le système qu'on nous propose, c'est quoi dans les grandes lignes, avantages, inconvénients ?
Alors le système actuel, c'est vrai que le système actuel donne certaines satisfactions, parce que il faut savoir qu'on a quand même un des niveaux de vie des retraités en France, un des meilleurs au monde. Donc on a un bon système. Il donne de ce point de vue-là satisfaction. Alors par contre, il y a des inégalités de traitement.
D'accord.
Donc il a des points forts et des points faibles dans notre système de retraite. Et puis il a surtout ce point fort, c'est que on sait avec combien on va toucher à la retraite. L'autre système, le système par points, il est fonction de ce qu'on va cotiser tout au long de sa carrière. C'est-à-dire qu'on peut avoir des années où on va être très mal payé. C'est pas les années d'apprentissage. Les gens sont très mal payés. Ils ont un pourcentage du SMIC en fonction de l'âge qui est pas total. Ils peuvent avoir des années de chômage. Les femmes, des congés maternité, pour un congé spécial pour élever un enfant. Donc ces gens vont moins cotiser. Alors dans le système actuel, on prenait les 25 meilleures années. Donc ces mauvaises années, on n'était pas très bien payés, et bien, elles étaient gommées. On n'en parlait plus, elles ne servaient pas au calcul du montant de la retraite. Tandis que maintenant, avec ce système, ces mauvaises années vont rentrer dans le calcul. Ce qui fait qu'il va y avoir de toute façon une baisse des pensions.
Avant d'aller plus loin, on va faire une petite pause musicale.
Oui, d'accord.
Ça me fait vraiment bizarre de savoir que c'est terminé, qu'à présent je suis peinard, plus besoin d'aller bosser. Demain je reste au Plumard, je pourrais faire une grasse matinée. Je l'attendais avec impatience, beaucoup mieux que les grandes vacances. L'heure de ma retraite a enfin sonné. Au boulot il y a eu réception, et tous les gars de l'atelier sont tous donnés un peu de pognon pour me payer un VTT. Il y avait même le grand patron qui est venu me féliciter. 50 ans dans la même usine, à en chier sur la même machine, et une belle poignée de main pour me remercier. C'est super, c'est super. En retraite, je verrai plus tous ces tortionnaires. C'est super, c'est super. J'en ai terminé, enfin, de mon calvaire. Je pourrais glander en permanence, et à part ma petite femme adorée, pour assurer la surveillance, j'aurai plus de chef pour m'engeler. J'irai au club de cyclo, ou alors jouer au TLC. Je ferai la sieste en permanence, j'irai voir le Tour de France, et personne pourra venir m'emmerder. On garde les petits enfants, on va au club des retraités, et puis encore de temps en temps, un voyage organisé. Le dimanche, un thé dansant, un rendez-vous chez le kiné, renouveler les ordonnances, présenter ses condoléances. Mais des fois, qu'est-ce qu'on peut s'emmerder? C'est super, c'est super. En été c'est bien, mais c'est long en hiver. C'est super, c'est super. Mais quand même, faut trouver quelque chose à faire. Et malgré tout l'entretien, la machine va se dégrader. Malgré les efforts des médecins, le phénomène va s'aggraver. T'auras beau dire que t'es pas malade et que tu veux pas y aller, seul avec ta débandade, ils te mettront dans un EHPAD. Encore pire que si t'étais prisonnier. Et si tu deviens pas ma boule, c'est ton fémur qui va péter. Ils te fileront de la semoule ou alors de la purée. T'auras des fuites et comme ça coule, t'auras des couches comme les bébés. Un beau déambulateur, une file neuve pour ton pacemaker. Et à 18h, tu seras couché. C'est super, c'est super. Pour manger, on te tient ta cuillère. C'est super, c'est super. Pour connaître qu'on s'occupe bien des grabataires. Désolé si cette chanson vous a fait un peu déprimer, mais faut pas trop se faire bourron, y'en a qui pensent à notre santé. Certains ont la solution, t'auras pas le temps de t'ennuyer. Au lieu d'avoir ta retraite, tu bosseras jusqu'à perpète, et t'auras toute la mort pour te reposer. C'était super, c'était super. Dans le temps t'avais le beurre, et puis t'avais la crémière. Y'a plus de super, y'a plus de super. On t'a tout pompé, il te reste plus que de l'ordinaire. C'était super, c'était super. Dans le temps t'avais le beurre et puis t'avais la crémière. Y'a plus de super, y'a plus de super. On t'a tout pompé, il te reste plus que de l'ordinaire.
Nous reprenons après cette petite pause musicale. Macron a fait des déclarations sur le revenu minimum des retraités, mais on ne l'a pas vu en traduction concrète dans le projet. Que faut-il en penser ?
Alors oui, il a tout dernièrement là, à Rodez, juste, il a déclaré que les retraités qui auraient travaillé toute leur vie, d'ailleurs ça n'existe pas, les gens qui travaillent toute leur vie, il faut quand même qu'ils aillent à l'école là-bas. Tout serait au minimum 1 000 euros par mois. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Ils touchent même plus que 1 000 euros par mois, celui qui a travaillé toute sa vie parce qu'il touche le SMIC, et donc une retraite du SMIC, c'est 85% du SMIC, la retraite si on a travaillé toute sa vie au SMIC. Donc bon, c'est peut-être qu'il a pensé à ça pour les agriculteurs ou les commerçants. Bon, mais il n'y a pas besoin de faire cette réforme-là pour mettre en place un minimum de 1 000 euros par mois pour l'ensemble des gens qui ont travaillé, ce qu'il dit, toute une carrière.
Oui, mais en même temps, le revenu minimum, c'est évidemment pas pour ceux qui ont travaillé toute leur vie, mais pour ceux qui ont des trous dans le tricot, comme on dit.
Je n'entends rien du tout.
En même temps, le revenu minimum, c'est une garantie. Donc on peut pas assujettir une garantie à des conditions, notamment de travail toute sa vie. Ça ne veut strictement rien dire.
Oui, alors ça c'est... Alors après, ce sont les minimums sociaux. Voilà, est-ce que quelqu'un qui arrive à un certain âge, alors on n'est plus sur le fruit de ses cotisations, mais on est sur le fruit de la solidarité. Ça c'est encore autre chose. Minimum social, aujourd'hui, en effet, il est aux alentours de 890 euros, me semble-t-il, 900 euros. Mais là, il n'est pas pour les salariés qui ont travaillé toute leur vie. Il est pour les gens qui arrivent à la retraite et qui prennent la retraite dans des conditions où ils n'ont plus de décote. Voilà. Il y a quand même aujourd'hui des conditions pour bénéficier du minimum garanti. Ça n'existe pas sans conditions. Voilà. Mais bon, là, c'est pour les gens qui ont travaillé toute leur vie, on est plus sur ce système-là. Ils parlent de deux choses vraiment différentes qui montre bon qu'il ne maîtrise pas tout à fait le sujet, et qui montre surtout qu'il n'est pas de ce monde-là. Aujourd'hui, on n'arrive pas à vivre, c'est sûr, avec 1 800 euros, mais quelqu'un qui a travaillé toute sa vie touche plus que ça.
Alors, ça nous amène, puisque tu viens de dire qu'il n'est pas de ce monde-là. Eh ben, ça nous amène au débat public lancé par le président de la République. Alors, est-ce que ce débat public est une bonne chose ou peut-être, et on va le voir après, qui a, pour ce qui concerne les travailleurs dans leur ensemble, motif à se mobiliser. Alors parlons d'abord du débat public. Qu'est-ce qu'il faut en penser?
Alors, il a déjà fait un débat public, suite au mouvement des Gilets jaunes. On a vu le résultat. C'est-à-dire, en tout cas, lui, sa conception du débat public, c'est de faire un grand show où il parle dans le vide sur des idées complètement abstraites et au passage, il balance ce qu'il prend pour des vérités et qui ne sont que des manipulations. Bon, après, un débat public, je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait un débat public sur cette question, quoi qu'il en soit. Après, il ne faut pas se faire d'illusions. Ce débat public, on peut en organiser dans les villes, ça va servir à ce qu'on débatte entre nous. C'est là-dessus, l'intérêt, il est là. C'est que les gens confrontent entre eux des idées, et puis j'espère que ceux qui ont les bonnes idées arriveront à convaincre ceux qui en ont de moins bonnes. Mais le débat est toujours bon pour la démocratie. Alors... Pas d'illusion. Il faut que nous-mêmes, dans les organisations syndicales, on entame le débat avec les salariés. S'il y a des formes plus générales d'organiser ce genre de débat, je pense qu'il faut y participer pour donner l'avis des organisations syndicales.
D'accord.
Un autre éclairage.
Alors, ça nous amène bien sûr à la fin et à la dernière question. Alors, j'ai entendu parler du 5 décembre. J'ai entendu parler que des organisations syndicales avaient des propositions, c'est peut-être là, ce sera peut-être le mot de la fin. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Alors, des propositions, oui, il y en a. Il y en a. Et la première proposition, c'est d'améliorer les entrées financières, de les augmenter, de les améliorer et de les augmenter. Alors, de les améliorer en faisant porter les cotisations sociales plutôt vers les entreprises qui réalisent beaucoup de bénéfices avec moins de personnel plutôt que la situation actuelle où des entreprises qui ont beaucoup de personnel qui réalisent peu de bénéfices, elles cotisent davantage. Donc il faut revoir le système de cotisation en fonction de la valeur ajoutée. C'est un peu technique, mais bon, il faut savoir que les petites entreprises payent beaucoup trop de cotisations par rapport aux grandes, alors que les petites font moins de profits que les grandes. Il y a aussi des moyens de revenus, des sources de revenus, pardon, des entreprises, et notamment les grandes entreprises, qui ne sont soumises à aucun prélèvement social. Ce sont les trésoreries gigantesques, disons, qui sont des placements. Ils placent leur trésorerie, cela rapporte 250 milliards par an, d'euros par an. Et ces 250 milliards d'euros par an qui sont le fruit du travail, qui sont l'accumulation des bénéfices dus au travail, ne sont pas, eux, soumis aux cotisations. Donc c'est du salaire qu'on a enlevé aux gens pour constituer du profit. Si on leur avait garder ce salaire, ils auraient cotisé, donc ça aurait amélioré les cotisations de la Sécu. Donc maintenant, il faut faire cotiser ces profits-là et ça rapporterait 20 milliards d'euros supplémentaires dans les caisses de la Sécurité sociale, ce qui aurait largement de quoi permettre l'équilibre de l'ensemble de notre protection sociale, que ce soit la santé ou la retraite. Voilà, ce sont des moyens de financer. Il faut améliorer quand même notre système de retraite. On a quand même des propositions à faire pour améliorer
notre système de retraite et non pas tout casser avec un système à points où on va dans l'inconnu. Est-ce que je peux résumer en une seule phrase ces explications?
Alors, j'ai pas entendu le début de la phrase. J'ai pas entendu ce que tu dis au début. Désolé.
Oui, le mot de la fin.
Ça y est.
Le mot de la fin. Améliorer notre système de retraite, qui est un système par solidarité, mais ne pas faire de contre-réforme en allant dans l'inconnu avec le système à points. Est-ce que c'est bien résumé.
Oui, c'est bien résumé, parce que c'est vrai que nous avons un système qui était basé sur la cotisation, mais qui supplée au manque de cotisation. C'est-à-dire que les gens qui ont eu des aléas dans la vie, la maladie, par exemple, les périodes de chômage, il y a tout un système de solidarité dans notre système qui prend en compte ces périodes-là. C'est aux alentours de 15 à 20% des retraites qui sont issues de la solidarité, tandis que là, il n'est pas prévu de solidarité. Elle n'est pas prévue dans le principe même. Alors, il parle de trimestre, de points supplémentaires accordés, mais enfin, on n'en sait rien, on ne sait pas ce que ça donne.
Merci Yannick.
Voilà, donc, attends, le 5 décembre, tu m'avais posé la question.
Oui, j'avais posé cette question, oui.
Oui, voilà, bon, je pense qu'il se prépare quelque chose d'important pour le 5 décembre, parce que il nous faut sauver notre système de retraite, et plus que notre système de retraite, il nous faut sauver notre système de protection sociale et de bien public. La retraite, c'est un bien public. Donner cette manne financière qui représente plus de 300 milliards d'euros par an au grand capital, qui ne va pas manquer, lui, de le gérer comme il l'entend, c'est-à-dire d'en faire des profits, eh bien, ces profits que va réaliser le grand capital, ce seront autant de droits que nous n'aurons pas. Donc le 5 décembre, le monde du travail doit être rejoint aussi par la jeunesse, ce qui est prévu, et par aussi les retraités, pour faire grandir nos revendications.
Bon, voilà donc le vrai mot de la fin. Je remercie donc Yannick Petitou. Je vous donne rendez-vous bien sûr le 5 décembre et sans doute avant à la radio. Merci à tous et à bientôt.
Au revoir.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Cœur
Lus. Le public de jardin de ma tante.
Oh,
c'est
pas vrai.
Ah bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.
Oh.